Migration des Français en Amérique du Sud. Première partie, Pigway. Aujourd'hui,
le grand départ et la traversée de l'espoir. Lorsque Christophe Colomb, en 1492, accosta sur les côtes de l'île de Guanahani, actuel San Salvador, Caraïbe, il ne se douta pas de l'impact de son voyage sur l'histoire du monde, disons de la Terre. Acclamé héros au retour de son premier voyage, il finit comme le roi Carnaval, destitué de ses privilèges, de ses biens, et mourut en 1506, toujours convaincu d'avoir découvert un chemin vers les Indes. Non, ce n'était pas les Indes, mais c'était tout de même un continent inconnu des Occidentaux, auquel il n'eut même pas l'honneur de donner son nom. Cet honneur fut rendu au navigateur florentin Amerigo Vespucci, qui avait travaillé dans la préparation des voyages de Colomb et s'était passionné pour ses découvertes. Amerigo Vespucci était tellement certain que Christophe Colomb avait trouvé un nouveau monde, un nouveau continent, qu'il se lança vers de nouvelles expéditions, dont en 1502 au sud de la Patagonie. Le nom América apparaît pour la première fois en 1507, désignant la partie sud du continent américain sur la carte établie par les cartographes Martin Waldseemüller, membre d'une société savante du duché de Lorraine. Ce savant, rendu ainsi hommage à Amerigo Vespucci, qui avait légué à l'humanité les descriptions de ses voyages, même si elles étaient et sont encore contestées. Le vieil monde devenait étroit à l'esprit expansionniste des riches et à l'esprit rêveur et aventurier des pauvres. Aussitôt frôlées, ces terres soi-disant nouvellement découvertes furent partagées entre les rois et puissants de l'Europe, signant des traités et des conventions issus des mariages d'affaires, d'unions de biens, des réunions de pouvoir. Le nouveau monde est devenu objet de spéculation, de tiraillement, et les pauvres succombaient dans des guerres sans fin pour maintenir les trônes debout et les couronnes sur les têtes.
America, America.
Riches, aventuriers ou avares, se mirent à rêver de l'Eldorado, de la terre promise, de l'Éden perdu. Cette histoire, nous la connaissons très bien. L'or et les pierres précieuses des terres conquises brillèrent sur les cathédrales, les églises, les palais de l'Europe, rehaussèrent la beauté et la délicatesse des coups blancs des dames de toutes les cours européennes, réaffirmèrent la puissance des nobles qui montraient avec superbe leurs doigts longs, fins, gantés et scintillant des bagues lourdes d'opulence. L'histoire, nous la connaissons très bien, et elle perdura dans l'imaginaire des peuples en Europe, un peu endormie par moments, jusqu'au jour où elle se réveilla et vint à nouveau alimenter les espoirs d'une vie meilleure. Notre histoire commence presque 400 ans après l'arrivée d'Amerigo Vespucci en Patagonie. Ces immenses extensions de terre sont toujours très peu peuplées et sauvages.
Peu peuplées ou inhabitées?
Habitées, Marie. Toujours par les autochtones, les Indiens, comme ils furent dénommés après les passages de Christophe Colomb. Toujours, malgré les massacres auxquels ils furent exposés au long de ces années. Notre histoire commence justement quand le gouvernement argentin essaye de peupler ces terres avec une population venant d'Europe pour éviter l'invasion des Chiliens et pour expulser les derniers Indiens qui résistent farouchement.
Thank you.
Depuis 1816, l'Argentine, indépendante et libre du joug de l'Espagne, doit veiller à maintenir ses frontières. Le pari est difficile. Alors que les provinces du littoral du Rio de la Plata, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Rios et Corrientes, se développent et se peuplent, le sud, cette vaste extension de terre allant jusqu'à la Patagonie, reste sous la menace des envahisseurs indésirables. La solution est l'immigration, une immigration sélective. Les gouvernements initient une vaste campagne de migration, mandatant des agences en Europe pour trouver des candidats. L'Eldorado est à nouveau ouvert au monde. Cela tombe bien. La révolution industrielle dévoile ses deux faces en Europe. Ses méfaits, évidemment, parallèlement à ses progrès. Le chômage rôde, la pauvreté, voire la misère s'installe. L'exode commence. C'est ainsi que des Français, tout comme des Italiens, des Polonais, des Anglais, entre autres, s'exportent en Argentine.
Quand l'eau bouillère est ben de l'aura, quand l'eau bouillère est ben de l'aura, Lanto son agugliado a hei o hu Lanto son agugliado Trobo sapino al pe del foc Trobo sapino al pe del foc Tutto desconsulado
Et c'est ainsi que deux Aveyronais se rencontrèrent à Buenos Aires le 1er juin 1882.
Clément Cabanet
et
François Issali.
Une confiance mutuelle naît dès leur première conversation. Ils identifient chez l'un et chez l'autre le même souhait.
François Issali est déterminé à faire venir sa famille en Argentine et même des amis. Il a passé presque 2 ans travaillant et sillonnant le pays et il croit à son avenir.
Clément Cabanet rêve de créer en Argentine une colonie agricole aveyronaise. D'ailleurs, il a déjà un projet bien avancé duquel il expose un résumé à François Issali. Puis, il convainc François Issali de repousser son retour en France pour attendre que le projet soit viable et ensuite de revenir au pays et s'occuper du recrutement des candidats au peuplement de la colonie.
L'attente dure 1 an, période pendant laquelle le projet de Clément Cabanet prend forme et les deux hommes se concertent.
En mai de l'année 1883, François Issali rentre en France. Conscient de sa mission de rassembler des Aveyronais dans cette aventure de l'autre côté de l'océan.
La tâche de l'un et de l'autre est ardue. Maintes difficultés se présentent. Cependant, ils ne se laissent pas abattre et cheminent ensemble, bien que loin l'un de l'autre. Finalement, Le 24 octobre 1884, François Issali, désigné chef du convoi, arrive sur le port de Bordeaux avec 162 personnes. Au loin, le Belgrano, vapeur de la compagnie chargeur réunie, les attend.
Et ils embarquent ?
Oui, Marie. Malgré l'étonnement du commandant de bateau, il n'a pas été informé, partant du Havre, qu'il aurait des passagers à prendre à Bordeaux. En conséquence, il n'a pas gardé des places pour les loger dans notre pont, il n'a pas prévu des lits et des ustensiles de cuisine. L'agent général d'immigration et du transport maritime, le commissaire, présent à l'embarquement, fait remarquer à François Issali que M. Clément Cabanette avait négocié à Paris seulement les prix du transport et de la nourriture. Il n'avait pas inclus les prix des lits et des ustensiles de cuisine. Pas d'autre solution. Chaque passager paye 10 francs à M. le commissaire qui part immédiatement acheter les matériels nécessaires. Évidemment, le Belgrano retarde son départ. Et part seulement à 22h. La nuit est longue. La fatigue de ces deux derniers jours en déplacement s'ajoute à celle de l'attente. Il faut retirer les marchandises de notre pont pour accommoder ces passagers de troisième classe.
De troisième classe ?
Oui, Marie. Et ils ne sont pas seuls. Il y a, dans les dires de François Issali,
200 et quelques Espagnols.
Qui partent également pour Buenos Aires dans les mêmes conditions qu'ils nous avaient renées. Reprenons le récit de François Issali.
Une fois que les lits furent installés dans l'entrepont, les familles françaises, espagnoles, hommes et femmes, garçons et filles, nous fûmes tous installés dans le même compartiment, comme qui dirait un troupeau de brebis avec des moutons et agneaux dans le même bercail. Pour arriver à installer dans l'entrepont des lits pour tous, je dus pendant 15 jours aider le charpentier du bord à faire avec des madriers, des planches pour mettre sur les couchettes pour que les passagers fassent leur lit dessus. Durant ces 15 jours, les passagers qui n'avaient pas de lit furent obligés de faire leur lit par terre et de coucher dessus. Quant à moi, je devais être continuellement à la disposition des officiers et des sous-officiers pour les soins des passagers et pour servir d'interprète aux Espagnols qui étaient à bord car j'étais sur le bateau, le seul qui connaissait assez l'espagnol pour le parler et le traduire en français.
Quinze jours. Presque la moitié du voyage qui s'est fait en 38 jours. 300 et quelques personnes entassées dans un entrepont, couchées, qui sur des planches improvisées en lit, qui sur un matelas de fortune, qui sur une couverture posée à même le sol. Les odeurs du corps non lavé se mélangent aux parfums censés rendre respirable cette atmosphère lourde et pesante.
Thank you.
Imaginons la situation. Soudain, entre les pleurs d'enfants, le ronflement, les murmures de plaisir à peine étouffés, les soupirs, les toux, les sanglots, et le bruit sourd à l'extérieur du navire, une voix se lève. Initialement fragile, discrète, douce, comme cachée sous un vêtement, un drap, une couverture.
Quiere canta, canta pan, canta per me mio, je l'aime.
Puis, un peu plus fort, cependant très nostalgique.
Toute la canta. Canto la canción.
Puis puissante, ferme, sûre, convicte.
Juge ma finestra, ya una merie. Che fa des fleurs blanches, ou me dé.
Elle s'impose et le silence s'installe. Même le vent sautait, même les vagues s'arrêtent. Tout le monde écoute.
À quelle fleur blanche far andame lu. Non plerai ma puccia per io e per vos. Se canta che recanta, canta pas per io, canta per ma mio che già l'ende io. A quellas montagnas che tan alta son, men pacem de veire, mas amur du sun. Se canta, quere cante, cante pas per jau, canto per ma mio, che già lende iu. Nauta sun plan nauta, mas abeisaron, e ma sa mureta si rapruciarran. Se canta che recante, canta pas per iu, canta per ma mio, che già l'ende iu.
Et quand elle s'estompe, d'autres voix osent se faire entendre, toutes douces, timides. Puis elles explosent, comme pour exorciser la souffrance, éloigner les souvenirs, apaiser les craintes. Devient un chant d'espoir, de la certitude d'aller vers un monde meilleur. Qu'importe la faim, le froid ou la chaleur étouffante, ils sont nombreux Ils sont ensemble. Ils sont prêts à lutter, à agir et réagir, à aller jusqu'au bout de leurs rêves. Les jours et les nuits se succèdent les uns aux autres, entrecoupés par des petits ou grands incidents. Certains auraient pu être évités si le traitement accordé à ces passagers de troisième classe était respectué. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. L'eau douce manque aux adultes et surtout aux enfants. Celle des entrepôts est chaude. Est-elle saine? Pour la voir, il faut presque la voler. En tout cas, la prendre avec la connivence de certains membres de l'équipage, mais surtout cacher des supérieurs. François et Sally racontent.
Grâce au service que daignèrent nous rendre les mécaniciens du bateau, les passagers n'eurent pas à souffrir de la soif et il leur fut toujours possible de se tenir tous bien propres, sans aucun frais.
Le pain est rationné. Le boulanger se refuse à augmenter la quantité qu'il fabrique. Un tumulte et une bagarre s'y forment rapidement. François et Sally interfèrent auprès du commandant. Deux passagers sont engagés pour préparer et cuire le pain, puisque le boulanger du bateau persiste à n'y pas le faire. Bien sûr, comme il se rend compte que la place est en péril, il se remet au travail et le pain ne manquera plus jusqu'à la fin du voyage.
Une nuit, une émeute éclate du côté des Espagnols contre quatre mécaniciens qui se sont enfermés dans leur salle à manger avec quatre jeunes filles espagnoles contre leur gré. Les Espagnols sont armés de couteaux et de revolvers et ils sont très en colère. Le commandant intervient et ordonne à ses hommes d'armer les pompes à vapeur et les braquer sur les insurgés. Le conflit s'arrête grâce à François et Sally qui s'interpose, calme les Espagnols et les fait rentrer dans l'entrepont.
Quelques jours plus tard, malheureusement, une jeune Espagnole de 15 ans, voyageant sans ses parents, se laisse entraîner dans l'infirmerie et est violée par les mêmes quatre mécaniciens de l'épisode précédent.
François et Sally ne chôme pas, car il est appelé à tout moment, pour tout incident, toute bagarre, toute difficulté.
Ainsi se passent donc ces 38 jours en mer. François et Sally racontent.
Le matin du 30 novembre 1884, temps clair, calme et chaud, le Belgrano étant arrivé dans le Rio de la Plata, s'arrêta et jeta l'ancre à l'eau.
Fin de voyage. Soulagement, contentement, larmes, rire. Les passagers de troisième classe, aveyronnais et espagnols, se présentent sur le pont avec leurs plus beaux habits pour se faire examiner par les autorités sanitaires argentines et le commissaire de l'immigration. L'instant est solennel. Le groupe débarque. Il est accueilli par les autorités locales, puis conduit à l'endroit où chacun doit subir les examens médicaux réglementaires. Émile Cabanet et Pierre Gondet, dont l'œuvre « Pigouet, ces Français devenus gauchos » écrivent
Venu à La Hâte pour accueillir ses compatriotes, Clément Cabanette s'efforce de faire abréger ses formalités. Ainsi, dès le 2 décembre, la commission d'émigration organise le départ des colons par voie ferrée pour Pégoué, où le gros de la troupe arrive dans la soirée du 3.
Ah, tout est bien qui finit bien.
Que dis-tu, Marie ? Ce n'est pas fini. Ce n'est que le début.
Soyons curieux,
soyons impatients. La suite nous attend.
Custerum cante, custerum cante, custerum los esclops. Canterum, canterum, canterum nos, canterum, canterum, canterum nos, sinsos, custerum, sinsos, custerum, sinsos.
Notre illustration musicale aujourd'hui.
Symphonie du Nouveau Monde, composée par Antonin Dvorak en 1893, Neil Armstrong emporta un enregistrement audio de cette symphonie lors de la mission Apollo 11, la première à déposer un homme sur la Lune en 1969.
Missa San Ignacio, Credo, de Domenico Zipoli, interprétée par le Coros de Niños de Córdoba, Argentine, et l'ensemble Elima, direction de l'Argentin Gabriel Garrido. Domenico Zipoli a vécu de 1688 à 1726 et son œuvre, la Missa San Ignacio, fut préservée par la communauté des Indiens Chiquitos, qui la conserve non seulement par tradition orale, mais également par retranscription écrite. Il l'interprète encore actuellement à l'occasion de la fête de San Ignacio de Loyola, auquel il garde dévotion.
L'eau boyée, chanson occitane du Moyen-Âge, auteur inconnu, interprété par Rosina de Peira. En français, le Bouvier. La chanson reste en essence la même, malgré quelques paroles différentes selon les régions.
Ces canto, interprété d'abord par Richard Abecera et ensuite par la chorale de la Miograno de Fejus. Composition attribuée à Gaston Phébus, comte de Foix, qu'il aurait écrit à la fin du XIVe siècle. Cette chanson est devenue une sorte d'hymne occitan, interprété autant en France qu'en Italie et en Espagne.
Canterum, canterum, canterum nos, canterum, canterum, canterum nos, faz yo flico flaco, faz yo flico flaco, faz yo flico flaco, luzes clops.
Canterum, canterum. Vous venez d'écouter Migration française vers l'Amérique du Sud.
Première partie, Pégoué, l'histoire des Aveyronnais devenus gauchos.
Racontée par une gauche devenue aveyronnaise.
Une émission enregistrée dans les studios de Radio Larzac, avec un texte de Rita,
régie et montage Marie, et les voix de
Marie,
Jean,
Nicolas
et Rita. Nos sources aujourd'hui.
De l'Aveyron à l'Argentine, itinéraire d'un pionnier, chronique de la fondation de la colonie française aveyronnaise de Pigoué, d'après le manuscrit de François Issali, 1924, adaptation de Nadine Coste.
Pégoué, ces Français devenus gauchos, d'Émile Cabanette et Pierre Gombert.
Canterum, canterum, canterum nos, canterum, canterum, canterum nos, sinsos de tazzo, sinsos.
Merci à toute l'équipe. Merci à tous ceux qui collaborent dans nos recherches musicales. Merci à vous, auditeurs.
Et vous pouvez écouter tous les épisodes de cette série Pigoué sur le site de Radio Larzac, à la lettre P.
Comme Pigoué.
Custerum cante, custerum cante, custerum luzes clops. Canterum, canterum, canterum nos, canterum, canterum, canterum nos, sinsos, custerum, sinsos, custerum, sinsos, custerum luzes clops. Canterum, canterum, canterum nos, canterum, canterum, canterum nos, faz yo flico flaco, faz yo flico flaco, faz yo flico flaco, luzes clops.
canterun, 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 nos, canterun, 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 nos, sin sos, de tazos, sin sos.